Raison gardée, une émission proposée par la Libre Pensée de Meurthe-et-Moselle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission Raison gardée sur RCN. Mais qu'est-ce que c'est que cette musique pour ouvrir notre émission du jour ? Qu'est-ce que c'est que cette petite ambiance un peu militaire ? Mais de quoi va-t-il être question ? Vous savez que la Fédération des Libres Penseurs n'est pas très très militariste, elle serait plutôt antimilitariste et pacifiste. Alors pourquoi cette petite ambiance ? Eh bien cette petite ambiance pour annoncer notre thème du jour. Nous avons déjà sur cette antenne et dans notre émission parlé du service national universel. Eh bien aujourd'hui il s'agit de reprendre notre information sur ce service national universel et notamment pour dire non à la militarisation de l'éducation parce que vous l'avez peut-être entendu, il est bien question d'intégrer le service national universel à l'école. Alors une petite explication s'impose. Commençons par rappeler pourquoi il n'y a plus de service militaire national obligatoire pour les garçons en France. C'est une décision qui date de 1996 et c'est le président Jacques Chirac qui avait décidé de suspendre le service national obligatoire. Alors au grand soulagement de beaucoup, beaucoup de garçons, on s'en doute. Il s'agissait en fait pour l'État de concentrer ses forces et puis ses ressources bien sûr hein, sur une armée de métiers. Sur des équipements qui devaient être modernisés et donc les raisons budgétaires avaient conduit d'abord à ce choix de supprimer le service national militaire donc qui était obligatoire pour tous les garçons. Mais manifestement, ces choix ont révélé quelques petits problèmes, en tout cas du point de vue de nos gouvernements. Un des premiers problèmes manifestement rencontrés, eh bien, c'est le problème du recrutement professionnel de nos soldats. C'est un problème effectivement qui est crucial pour le ministère des Armées. Et le deuxième problème auquel le gouvernement prétend répondre, c'est un certain rejet de la jeunesse vis-à-vis de l'armée, de l'idée de la préparation de la guerre, le refus d'un certain ordre des choses, le refus aussi porté par bien des citoyens de voir une si importante partie du budget de l'État consacrée à l'armement. Donc, il est apparu aux différents gouvernements qu'il fallait revoir la façon dont la défense, l'organisation des armées était présentée à notre jeunesse et comment susciter aussi quelques vocations. Parce qu'il est très clair que c'est bien là le premier objectif de notre gouvernement. Le service national universel, c'est une idée qui avait été portée par le président Macron dès son premier mandat. Il a annoncé ce service national comme étant obligatoire, mais avec une phase de test qui faisait appel à des volontaires. Alors rappelons en quelques mots en quoi consiste ce service national universel tel qu'il se présente sur le papier. D'abord, ce service il s'adresse à tous les jeunes Français, garçons et filles, entre 15 et 17 ans. Et il se présente en trois temps. Le premier temps, c'est un séjour de cohésion, c'est comme ça qu'il est appelé, de 12 jours, dans un département qui n'est pas le département d'origine de ce groupe de jeunes. Le deuxième temps est appelé mission d'intérêt général. Il s'agit d'un certain nombre d'heures, un peu plus de 80, réparties au cours de l'année, qui jusque-là donc, étaient proposées pendant les vacances scolaires. Et puis, la troisième phase de ce service national universel, si on veut l'accomplir totalement, c'est une période dite période d'engagement, qui est volontaire et donc facultative. Celle-là ne serait pas imposée mais dans le cadre scolaire. Et cette période d'engagement, elle peut se vivre au-delà de la fourchette d'âge de la première étape hein, du SNU, qui était de 15 à 17 ans. Là, c'est une période qu'on peut vivre entre 16 et 25 ans. Et puis ce projet, eh bien, il est quand même chiffré. Et il est intéressant d'aborder cette question du coût. Alors, je peux déjà vous annoncer un chiffre, que si le service national universel était généralisé, on estime qu'il coûterait entre plus de 2 milliards et 3 milliards d'euros par an. C'est un chiffre qui sort de la commission des finances du Sénat. Alors, il y a d'autres pays qui ont décidé d'augmenter leur budget militaire, mais aussi de modifier un peu leur système éducatif pour inclure une formation militaire, moi je la qualifie de militaire, au sein même de l'école, dans une perspective aussi qui est celle d'une acceptation sociale des guerres. Il ne faut pas se leurrer. Alors le discours évidemment n'est pas celui-là. Depuis qu'il a été lancé de manière, en faisant appel au volontariat, le service national universel est plutôt présenté comme une sorte de colonie, pas tout à fait une joyeuse colonie de vacances, hein, on va le voir, mais quelque chose qui s'apparente quand même à la découverte d'autres lieux, loin de chez soi, où on est avec ses petits camarades et puis où on va vraiment passer du bon temps tous ensemble. Un peu l'armée, un peu la colonie de vacances. C'est ce qui est dit d'ailleurs par des jeunes gens qui sont invités à témoigner de cette expérience, des jeunes gens triés sur le volet pour en dire du bien, parce que les jeunes ne se sont pas précipités au moment de l'ouverture des inscriptions de ce service national universel, et depuis que l'expérience s'est lancée, le succès n'est pas du tout au rendez-vous. Ce qui laisse penser que si les jeunes sont tout à fait prêts à s'engager, ce qu'on peut voir au quotidien dans les associations et dans le monde militant, eh bien l'engagement n'est pas un engagement militaire, contrairement à ce que voudrait nous faire croire la propagande du gouvernement. Le service national universel a été promu ces derniers mois à travers des villages SNU qui ont circulé partout en France. Et notamment, dans l'Est, le village est venu à Épinal. Et je faisais partie de ceux qui sont allés voir un petit peu comment les choses se passaient et puis qui avaient décidé de se présenter devant ce village pour contre-argumenter par rapport à la propagande pour ce service national universel. Eh bien, je peux vous assurer que sur une journée entière de présence de ce village de propagande organisé par le gouvernement, se sont présentés trois jeunes gens. Voilà, trois personnes qui sont venus s'informer. On sait aussi que statistiquement, bien des jeunes qui étaient volontaires étaient souvent eux-mêmes des enfants de personnel de l'armée, c'est-à-dire des jeunes gens qui baignent un peu dans ce milieu et qui ont pu, par curiosité et par intérêt, vouloir se rendre à ce service national universel. Alors, il y a plusieurs problèmes quand même qui se sont assez vite posés. Vous vous souvenez peut-être que vous aviez vu au tout début du lancement de ce service national universel des jeunes gens qui étaient au garde à vous en plein soleil et qui se sont évanouis. Alors, j'ai envie de dire que c'est presque la partie émergée seulement de l'iceberg, parce que les problèmes sont bien plus que pose ce service national universel tel qu'il est conçu et organisé, pose quand même bien d'autres problèmes. La dimension militaire que le gouvernement cherche souvent à occulter, est quand même bien présente. Ça, on peut le voir assez rapidement quand même avec les documents officiels de la propagande, les vidéos, les photographies. Il y a bien un lever du drapeau, il y a bien, alors non pas un encasernement parce que les jeunes gens ne sont pas dans des casernes, mais il y a quand même une contrainte physique d'être enfermé dans un espace, de dormir dans cet espace et de suivre les ordres d'une hiérarchie et de suivre un emploi du temps qui est justement encadré par des personnes dont certaines sont issues de l'armée. Ce qui est intéressant aussi dans les vidéos qui circulent, c'est que, contrairement à ce qui a été annoncé, les jeunes gens manipulent des armes. Alors c'était un des grands arguments du gouvernement que de dire que ce service national universel n'était pas du tout un service militaire et qu'il y aurait de l'information sur la défense, mais non pas de la manipulation d'armes. Or, c'est faux. Manifestement, c'est faux. La preuve est faite que des très jeunes adolescents, les images sont d'ailleurs assez choquantes, ont eu l'occasion de manipuler des armes à l'occasion de ce service national universel. Donc c'est déjà quand même un premier problème et, disons-le, un mensonge de ceux qui portent ce service national universel. Deuxième problème quand même que l'on peut soulever, c'est celui des encadrants. Les personnes qui sont censées encadrer ce service national universel, si là encore on se réfère aux documents qui nous sont donnés, sont des éducateurs, des professeurs volontaires de l'éducation nationale et des membres des armées, des militaires donc. Or, il s'agit quand même de donner un encadrement à des adolescents dans la mixité. Et on ne fait pas n'importe quoi. Encadrer des adolescents, ça suppose quand même normalement une formation solide, sérieuse, que des éducateurs peuvent avoir bien sûr, que des professeurs peuvent avoir bien sûr. Est-ce tout à fait le rôle de quelqu'un de l'armée ? Ne va-t-on pas quand même, et l'expérience prouve que si, on voit bien cela, une hiérarchie militaire qui veut imposer sa façon de fonctionner à des adolescents. Et dans la presse, on a pu lire des histoires de punitions collectives de groupes de jeunes sortis en pleine nuit de leur internat, et puis de voir faire des pompes de manière punitive parce que quelqu'un n'avait pas respecté un couvre-feu ou que sais-je encore. Donc on peut quand même poser la question de cet encadrement. Et alors là, c'est encore plus grave, plus inquiétant. Plusieurs affaires d'agression, de harcèlement sexuel et même de racisme ont été traitées dans la presse. Alors la presse nationale, la presse régionale, et je peux vous renvoyer à un article de la revue Politis qui s'est beaucoup intéressé à ce service national universel et qui rapporte toute une série de faits de manière très circonstanciée sur des agissements, par exemple d'un lieutenant-colonel, c'est-à-dire vraiment l'affaire à des gradés de l'armée qui ont des comportements, qui ont pu avoir des comportements complètement inappropriés. Les témoins, les jeunes personnes qui ont vécu ces événements utilisent des qualificatifs quand même extrêmement forts pour parler de cette expérience. Ils disent que ça a été traumatisant, terrifiant. Ils parlent d'attitudes ou de propos très méprisants. Ils parlent d'agression. Alors, sans entrer dans le détail, même des éducatrices, par exemple, qui étaient présentes et qui devaient travailler avec des militaires encadrants, ont signalé des attitudes sexistes, des ambiguïtés sexuelles, et puis des attitudes, des comportements physiques qui peuvent être qualifiés d'agression. Donc, c'est vrai que nous avons quand même affaire là à des... Alors là, il s'agit d'éducatrices aussi qui ont porté plainte, mais il y a aussi des jeunes gens qui ont remarqué des attitudes ambiguës. Et voilà, donc ces personnes qui sont dans une structure qui les enferme, ils sont dans un internat, et qui sont sous la tutelle de ces adultes qui ne se comportent pas correctement. Donc on place quand même dans ces cas-là les adolescents dans une situation extrêmement difficile. Et puis, allons encore plus loin, des associations ont pointé, parce qu'il y a beaucoup de collectifs anti-service national universel qui se sont créés, et bien ces collectifs ou d'autres associations ont pointé les problèmes que représente ce service national universel par rapport aux droits de l'enfant. Et alors là, il y a quand même pas mal de points qui méritent d'être soulevés. En se référant à la Convention internationale des droits de l'enfant, dont on a fêté quand même il n'y a pas très très longtemps le 30e anniversaire, c'était en 2019 je crois, on peut remarquer par exemple que l'enfant normalement ne doit pas être séparé de ses parents contre son gré. Alors si le service national universel devient obligatoire, que va-t-il se passer ? Quel statut aura l'enfant qui ne veut pas s'y rendre ? Que se passera-t-il vis-à-vis de ses parents ? L'article 12 aussi des droits de l'enfant dit que les États garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant. Les opinions de l'enfant sont dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Le fait que l'enfant soit plus ou moins contraint dans le cadre d'une obligation suivre ce SNU contreviendrait à cet article 12. Alors, pourquoi ? Eh bien parce que si le SNU devient quelque chose d'obligatoire et dans le cadre scolaire, on peut tout à fait imaginer, et c'est bien dans les projets, d'associer en fait ce service national universel et de conditionner la réalisation de ce service à l'obtention officielle du baccalauréat, par exemple. Aujourd'hui, rappelons-le, quand un élève remplit tout son dossier sur Parcoursup et toute la prose nécessaire pour l'obtention du baccalauréat, on lui demande la preuve qu'il a participé à une journée de formation citoyenne. Donc là, il s'agit d'une journée, mais que se passera-t-il si le service national universel devient obligatoire dans le cadre scolaire et obligatoire pour avoir une obtention, l'obtention finale de son bac? Ça pose quand même un problème. Et puis, rappelons aussi que dans les droits de l'enfant, il est rappelé à l'article 13 que l'enfant a le droit à la liberté d'expression. Quel est exactement le cadre de ce service national universel? Est-on bien sûr que l'enfant aura le droit à la liberté d'expression dans ce cadre-là? Ce sont quelques questions qui se posent et elles ne sont pas traitées de manière satisfaisante pour le moment. Il y a d'autres questions qui se posent aussi sur les droits de l'enfant et de la personne. Par exemple, la mixité de ce service pose aussi la question de la division entre filles et garçons. Que se passe-t-il pour tous ces jeunes gens qui sont dans une réflexion sur leur identité? Comment seront traitées les demandes particulières de ceux qui ne peuvent pas aisément s'inclure comme ça dans une vie collective en se pliant à cette distinction fille-garçon? Sont aussi des questions que dans le cadre scolaire on traite avec la plus grande ouverture, la plus grande bienveillance. Qu'en sera-t-il dans le cadre de ce service national universel? Nous n'avons pas véritablement de réponse pour le moment. Je vous propose une petite pause musicale avant de reprendre notre réflexion sur le SNU et d'interroger son caractère obligatoire dans le cadre scolaire.
Battlefield I stand, face the devil's own right hand, and I see a rainbow, and I wanna be a part of that rainbow. My face into the wind, close my eyes and pray again that I was dreaming. Oh, I wish that I could just be dreaming. Well, the world is growing colder and no one has a name. No one cares to look around and no one takes the blame. Oh, I don't want to be a soldier. I just want to be free. I don't wanna be no hero. I just wanna be me. Justify, cover up with alibis what you believe in. These things I no longer believe in. And
And if you buy what is for sale, you better be prepared to sell yourself and move to nowhere. But not me, man, I've already been there. And the writing on the wall tells me that the sun is going down. Well, I can live in darkness, but I can't live like a clown. I don't want to be a soldier. I just want to be free. I don't want to be no hero. I just want to be me.
Soldat, nous dit-il. Nous parlons aujourd'hui sur RCN, dans Raison Gardée, du service national universel et du projet qui est en train d'être mis en œuvre d'une obligation, en tout cas on tend vers l'obligation de la réalisation de ce service national universel dans le cadre scolaire. Alors, ce service national universel, je le disais tout à l'heure, pose des tas de questions et dans son principe même, ce qu'on a peut-être pas encore assez redit depuis tout à l'heure, c'est que ce projet qui nous est présenté comme un projet d'émancipation n'en est pas un du tout. Alors ça, c'est vraiment typiquement la novlangue, hein, utiliser un mot dans son sens complètement contraire. On n'a pas arrêté d'entendre parler de mixité sociale permise par le service national universel, de cohésion nationale et d'émancipation des jeunes. Ce sont des termes qu'employait notamment celle qui était en charge précédemment de ce projet du service national universel, Sarah El Haïry, qui aimait plaider pour ces belles et grandes valeurs. Bah, bien sûr, qui peut être contre la mixité sociale, la cohésion nationale et l'émancipation des jeunes? Sauf que dans la réalité, ce service national universel, c'est vraiment l'antithèse du projet d'émancipation. Alors, on peut déjà discuter de la mixité sociale. Hein. Faut-il attendre le service national universel pour qu'un élève ou qu'un jeune connaisse la mixité sociale? Bah, je crois que justement qu'à l'école, normalement, avec une carte scolaire bien faite et bien respectée, il est évident que un jeune entre 15 et 17 ans a déjà très très largement vécu la mixité sociale. Bien, c'est que vraiment, il y a un problème. La cohésion nationale, bon, ça, on pourra en reparler, parce que ça soulève encore d'autres problèmes. Alors, l'émancipation des jeunes, c'est-à-dire qu'on leur propose un cadre assez militaire, hein, quand même, avec donc port de l'uniforme, lever des couleurs, donc le drapeau, hein, le chant de la Marseillaise, et puis des activités pour inculquer les valeurs de la République. À coup de grandes phrases et de grands principes, alors qu'il faudrait plutôt les vivre, ces valeurs de la République, pour vraiment y adhérer, ben on est quand même très très loin de l'émancipation individuelle. C'est plutôt l'uniformisation et une espèce de fausse communion patriotique qui s'impose dans ce cadre-là. Il ne faut pas imaginer autre chose. Donc il y a aussi tout un imaginaire de l'ordre, hein, qui hante l'esprit de nos de nos gouvernants, manifestement, un ordre qui passerait justement par ce service national universel, sans doute pour obtenir, pour reprendre une expression qui maintenant est bien connue, une classe qui se tient sage, c'est-à-dire des jeunes gens bien respectueux de l'ordre et à qui justement on a fait entendre qu'il y avait une seule façon de voir les choses et de s'engager, alors que justement l'émancipation, bah, c'est conduire quelqu'un à faire preuve de sens critique et le conduire justement sur la voie de ce raisonnement critique pour devenir un citoyen parfaitement éclairé. On est quand même très très loin du projet. Alors ce projet aussi de faire entrer le service national universel dans l'école, eh bien il a filtré dès le printemps. On voit bien en fait que l'idée c'est de profiter un peu de ces élèves captifs hein, en leur imposant ce service national universel, mais comme les choses ne passent pas de manière très simple, eh bien le gouvernement propose ce qu'il appelle un volontariat actif dans des classes d'engagement. Alors, il s'agissait jusque-là d'un volontariat individuel, là il s'agit de conduire des élèves d'une classe à intégrer le programme du service national universel avec une sorte de label spécifique, et les élèves accompliraient la première phase du service national universel, hein, donc les 12 jours de cohésion, sur le temps scolaire. Donc ce serait plutôt des élèves de seconde hein, qui seront, puisque ça risque bien de se passer bientôt, soyez vigilants, qui seront concernés, encadrés en partie par les professeurs. J'espère pour eux aussi qu'il faudra aller chercher les volontaires et qu'on ne va pas essayer de leur imposer, notamment grâce à ce fameux pacte, mais c'est encore autre chose. Le coût de l'affaire, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est quand même un coût faramineux, c'est clair, mais surtout quand même ça pose bien des questions. Alors on va sortir des élèves de classe pendant 12 jours pour des activités qui vont coûter quand même un petit peu d'argent. Je crois qu'il y a beaucoup de professeurs qui sont prêts à construire des tas de projets vraiment culturels, vraiment émancipateurs, si on leur en donnait les moyens. Vraiment conséquents. Or, il va y avoir des moyens conséquents mis sur le service national universel, donc c'est dommage. On pourrait, de manière très régulière, emmener des élèves à droite, à gauche, arpenter des musées, découvrir des hauts lieux de mémoire, encadrés par un professeur d'histoire, qui assurerait un enseignement de qualité, sans ce cadre de service national universel, et de ce qu'il porte, évidemment, de normes, de discours officiels apportés aussi par les encadrants. Donc, je peux dire, peut-être, si les élus et le gouvernement, par hasard, tombent sur RCN, que si vraiment ils ont de l'argent pour l'émancipation des jeunes, eh bien qu'ils peuvent le laisser à l'éducation nationale, non pas pour le service national universel, parce que c'est quand même en partie l'éducation nationale qui va payer, mais bien pour financer tous ces projets culturels que les enseignants sont vraiment tout prêts à construire et à enrichir, parce qu'il y en a déjà énormément. Les syndicats sont réunis dans une déclaration commune contre ce projet national universel, qui remet en cause aussi le rôle des personnels de l'éducation nationale, mais aussi les personnels de la jeunesse et des sports, et puis qui implique aussi de déstructurer encore plus le temps scolaire, quoi, dont on parle beaucoup, hein, on évoque beaucoup le problème des absences des enseignants, etc., qui serait très dommageable pour l'élève, mais voilà que le service national universel viendrait vraiment perturber grandement toute l'organisation scolaire de l'année de seconde, qui est une année clé pour un élève, pour pouvoir réussir ce passage au lycée et se choisir ensuite l'orientation qui lui convienne le mieux. Ce service national universel, il a bien aussi pour but de permettre un recrutement, c'est tout à fait explicite. Il y a donc un peu, on imagine nos élèves quand même un peu captifs de ce système qui aurait pour but de retrouver ce que Chateaubriand avait appelé de la chair à canon. On a peut-être changé les armes, mais l'idée est un peu la même. Je vous invite, parents qui nous écoutez, à vous rapprocher des fédérations de parents qui sont aussi vent debout contre cette introduction du service national universel dans les écoles. Je vous invite aussi à chercher les nombreux collectifs anti-SNU qui se sont formés. Et renseignez-vous, parce que si votre enfant va entrer en seconde ou est en seconde, eh bien le problème va se poser à vous très prochainement. Voilà, bonne fin de journée et à très bientôt sur RCN.